Donc, j'ai choisi un texte ce matin pour nous aider à bien démarrer 2021. Alors, tout à l'heure, Aurélien nous a fait un petit sondage. Je me réjouis que parmi les jeunes, il n'y ait pas trop de désespoir, on va dire, par rapport à cette année. Mais quand on sonde quand même nos contemporains, moi qui travaille en entreprise, c'est assez difficile pour certains vivent très bien le confinement, d'autres le vivent très mal. Et pas mal de gens sont en difficulté cette année, hein, si on prend la moyenne des Français. Donc, on est privilégiés, nous, on a le Seigneur. On peut se rattacher à quelque chose de solide, hein, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, cette espérance, nous l'avons comme une ancre de l'âme solide et sûre qui pénètre au-delà du voile, parce que Jésus est entré dans le ciel comme souverain sacrificateur. Il nous a envoyé cette ancre à laquelle nous pouvons nous raccrocher. Mais je me dis que peut-être parmi les chrétiens, ben c'est pas toujours simple de vivre ce temps, et le début de l'année ne s'annonce peut-être pas meilleur. Donc j'ai choisi un texte qui va nous aider parce qu'elle nous parle d'un personnage qui peut-être a vécu quelque chose de l'ordre de ce que nous vivons. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans un texte qui est bien connu, c'est dans le livre de Josué, au chapitre 1. Et donc, on va lire les 8 premiers versets, Josué chapitre 1, versets 1 à 8. Josué chapitre 1, versets 1 à 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout le peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Voilà, on va arrêter la lecture ici. Donc, texte bien connu, texte que nous avons étudié il y a un peu plus d'un an, en étude du vendredi. Et je voulais remettre ce texte un petit peu dans le contexte, parce que pour comprendre la portée de ce texte aujourd'hui, il faut comprendre le pourquoi du début de ce livre. Et pour cela, il faut faire un lien avec le dernier chapitre du Deutéronome, car la continuité des deux livres est très nette. Donc, à la fin du Deutéronome, le dernier chapitre, les Israélites ont pleuré Moïse pendant 30 jours. Hein, c'est officiel, il y a eu un deuil national qui a été décrété, puis les jours de deuil ont pris fin, et il faut faire face à la réalité. Il y a eu un deuil, la vie continue, les Israélites sont là, la génération qui est sortie d'Égypte est morte, sauf Caleb et Josué, justement, hein, parce qu'ils ont été fidèles à l'Éternel, ils ne se sont pas rebellés. Et là, ce sont les enfants qui sont avec Josué, il y a plusieurs millions de personnes, ils sont devant le Jourdain, et la vie continue. Cette année 2020, j'ai moi-même dû vivre un deuil, j'ai perdu mon papa pendant le Covid, et j'ai dû accompagner ma maman, qui était toujours, elle est toujours tournée vers le passé, parce qu'elle ressasse sans arrêt, bah, bien sûr. 69 ans et 9 mois de mariage, c'est pas rien. Et donc, voilà, elle ressasse le passé. Et je me dis que de temps en temps, eh bien, on a tendance à ressasser le passé. On a tendance à se souvenir des jours d'autrefois parce que ce qui est devant nous nous fait peur. On a peur de l'avenir, donc on se tourne vers le passé. Et là, par exemple, ce qu'on voit au début du texte, c'est un peu bizarre. Deux fois, il est parlé de la mort de Moïse. Une première fois où l'auteur dit après la mort de Moïse, et Dieu, quand il va prendre la parole, il va dire: Moïse, mon serviteur, est mort. C'est bizarre quand même. Ils ont pleuré Moïse pendant 30 jours. Bon, on a entendu parler de Moïse. Alors pourquoi est-ce que Dieu, au début de ce texte de Josué, parle de la mort de Moïse deux fois. Est-ce que Dieu est à ce point sadique pour aller remuer le couteau dans la plaie de Josué et lui rappeler encore tout ça, hein? Déjà, Josué, il se dit, mais c'est un monument qui est parti, c'est moi qui dois reprendre la place. Et en plus, Dieu me rappelle qu'il est mort. En fait, je crois que Dieu veut aider Josué à faire une croix sur le passé. Hein? Non seulement Josué, mais les Israélites. Une croix sur le passé, même au sens figuré, parce que Dieu a mis une croix entre nous et nos péchés, comme il met cette mort de Moïse entre Josué et son avenir. Les échecs du passé, les murmures dans le désert, les 40 ans passés au désert ont existé, certes, mais maintenant, il y a une nouvelle ère qui commence pour Josué et pour les enfants de ce peuple rebelle. Et je pense que ce n'est pas pour rien que le texte nous parle de la mort de Moïse. Comme si Dieu disait, écoute, maintenant, Moïse est mort, c'est fini. Hein, on en parle une dernière fois, tu mets une croix dessus, mais maintenant l'avenir est devant toi. C'est ça que Dieu dit à Josué. Maintenant, ce mot maintenant est important. Et pour nous, ben, on est le 3 janvier, c'est maintenant. Ce n'est pas ce qui s'est passé l'année dernière, ce n'est pas tout ce qui est arrivé, c'est maintenant. Maintenant, l'avenir est devant nous. On a prié tout à l'heure, plusieurs ont prié leur espérance vis-à-vis de l'avenir. Eh bien, Dieu dit à Josué, maintenant. Ce mot est lourd de signification. Certes, il faut tenir compte du passé, mais non pas pour le regretter, mais pour apprendre du passé et aller de l'avant. Par exemple, Josué faisait partie des 12 espions qui sont partis 40 ans auparavant explorer le pays. Ça a mal marché, ça a mal tourné, ils se sont découragés. Eh bien là, Josué a appris, il va envoyer 2 espions, et encore discrètement, parce qu'il ne veut pas faire un espèce de grands rassemblements de peur que le passé ne se renouvelle. Donc Josué regarde dans le passé, il a appris du passé, mais il va s'en servir intelligemment pour mieux préparer l'avenir. Et pour nous, c'est ça aussi. C'est savoir regarder en arrière pour préparer le futur. Alors Moïse, bien sûr, était un homme remarquable et la tendance naturelle de Josué et du peuple serait de se laisser aller, de dire, bah, maintenant Moïse est mort, tout est perdu, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu encore est-il au milieu de nous? Est-ce que Dieu ne va pas se venger de tous les murmures du passé? Il pourrait se dire ça aussi. Hein? Peut-être que Josué pense dans sa tête, ça y est, Dieu va me faire payer finalement toutes les rébellions, parce que Dieu était l'ami de Moïse, mais Moïse est parti maintenant, je me retrouve tout seul, peut-être que Dieu va me faire payer. Ça a été les raisonnements des frères de Joseph, souvenez-vous. Quand Jacob est mort, les frères de Joseph, tout de suite, ils ont dit, oulala, ça y est, Joseph va se venger. Et ce qui est bien, c'est que Joseph vraiment est un type de Jésus-Christ. Hein. Il nous montre le vrai caractère de Dieu. Parce que quand les frères de Joseph viennent vers lui, se jeter à ses pieds et lui dire, mais pardonne notre faute, etc. Joseph, vraiment avec un cœur attendrissant, va leur dire, mais suis-je à la place de Dieu? Donc c'est pour ça que au début de ce chapitre de Josué, Dieu a besoin de rappeler ça à Josué qui a à un moment donné un passé, qui tire un trait sur le passé et que maintenant l'avenir est devant lui. Je crois que c'est vraiment un des messages que ce texte véhicule pour nous aujourd'hui, nous chrétiens du 21e siècle. Parce que l'être humain, naturellement, a tendance à faire un culte du passé. Il n'y a qu'à regarder les nombreuses basiliques. À chaque fois qu'il y a une apparition, la basilique de Saint-Pierre, je ne sais pas où, de Sainte-Marie, de Saint, je ne sais pas quoi. Dès qu'il y a quelque chose, on construit des reliques, on construit des basiliques, on va vénérer le passé. Au lieu de se tourner vers l'avenir, l'espérance de celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité aujourd'hui. C'est ça que Dieu veut nous dire. C'est arrête de regarder dans le passé et arrête de te lamenter, arrête de te complaindre dans ta situation. Et c'est pour ça que dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a ce verset plein de sagesse qui nous dit « Garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ?» Ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Autrefois, ce n'était pas mieux. Nous qui sommes vieux, on ne peut pas dire « Ouais, mais avant c'était mieux et maintenant c'est pire. » Non, c'est pareil. À chaque génération, il y a un niveau de difficulté et à chaque génération, le Seigneur est fidèle et il nous aide à aller de l'avant. En d'autres termes, l'Ecclésiaste ici nous met en garde contre une sorte de nostalgie du passé qui nous amènerait à un refus de vivre le présent, tel que Dieu l'a préparé pour nous. Et ce refus est souvent motivé par la peur. Imaginez Josué, il est là devant le Jourdain, il a plusieurs millions de personnes devant lui, il a un fleuve, il n'y a pas de pont, Et de l'autre côté, il n'y a que des ennemis. Encore les 40 ans, ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas grand monde. De temps en temps, il y a des incursions d'Amalécites. Ils étaient dans le désert, face au désert. Là, il va rentrer dans un pays plein d'ennemis. Et donc, cette peur qui doit l'habiter, hein, le texte ne nous le dit pas, mais j'imagine, en tant qu'être humain, Josué doit être mort de trouille. Hein, on verra tout à l'heure. Et la crise de Covid, que nous vivons depuis près d'un an, a provoqué chez chacun des bouleversements profonds. Les gens le vivent différemment. Il y a des gens qui le vivent très bien, il y a des gens qui le vivent extrêmement mal. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après, et il y a un deuil du passé à faire. Et ce deuil, ce n'est pas seulement la perte d'un être cher, le mot deuil peut s'appliquer à toutes sortes de pertes qu'on avait dans le passé. Et ceci a été bien théorisé par Elisabeth Kübler-Ross, hein, qui a étudié le deuil, le vrai deuil de perte d'être humain. Et sa courbe de deuil est bien connue des psychologues. Elle dit que lors d'un deuil, l'individu passe par différentes phases qui sont plus ou moins importantes. Hein. Voilà, c'est la courbe simplifiée d'Elisabeth Kübler-Ross. Vous voyez qu'il y a d'abord une phase de déni, de choc, une phase de sidération. On n'y croit pas. Et c'est le premier confinement. Au mois d'avril, on a eu une phase de sidération. Les gens n'y croyaient pas, ils étaient complètement perdus. Et puis, très rapidement, viennent des émotions. Il y a tout un tas d'émotions qui arrivent pendant le deuil, et notamment des émotions de colère et de peur qui sont mélangées. Hein, c'est ça, le deuxième confinement, ça a été beaucoup de colère et de frustration. Hein, c'est pour ça qu'il y a des rébellions, c'est pour ça qu'il y a des fêtes sauvages, etc. Parce que les gens sont en colère contre ça. Ils sont en colère contre je ne sais pas qui, contre le gouvernement, contre des tas de choses, mais les gens sont en colère. Et puis après cette phase de colère vient un mélange de peur et de tristesse. Et vous voyez, alors le vertical, là, ce qu'on appelle les ordonnées en mathématiques, représente en fait le niveau d'énergie. Donc vous voyez que dans une phase de deuil, on passe d'un niveau d'énergie très haut à un niveau d'énergie très bas. Et probablement, je dis probablement parce que c'est mon interprétation, si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir. Mais probablement, Josué, il doit être quelque part dans cette zone-là. Vous voyez, il est là, au chapitre 1, probablement entre la peur, la tristesse, la phase de colère, on ne sait pas s'il l'a eu, la Bible ne nous dit pas, mais il est probablement là. Il est assis. Comment on le sait ? C'est, Dieu lui dit « lève-toi ». Donc, à un moment donné, il a besoin d'un coup de pouce. Il est en bas. Il est dans une phase de dépression, d'interrogation, de doute, de peur. Il y a des tas de choses qui passent dans sa tête, probablement, même si la Bible ne nous le dit pas. Et Josué était peut-être en train de se repasser ses 40 ans. Les rébellions du peuple, le rocher frappé, les murmures, les cailles. Il se souvient de la galère de Moïse pour conduire ces millions de personnes. Et probablement, là, il est assis, il procrastine, il tourne en rond, il fait du surplace. Mais là, Dieu va intervenir un peu pour le secouer. Vous savez, comme Élie aussi, après sa grande victoire au Mont Carmel, hein, en 1 roi 19, et Élie se met sous un genêt. Il est un peu déprimé, il ne bouge pas, et Dieu est obligé de le secouer, de venir un petit peu lui donner un coup de booster. Ben, Josué, il en est probablement à ce stade-là. Et peut-être que nous aussi, ce matin, certains d'entre nous, eh bien, nous sommes ici un peu prostrés. On se demande ce qu'il faut faire, on a peur de l'avenir, le début de l'année, on repasse dans la tête, qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Bien, je crois que ce texte va nous amener des réponses. Parce qu'en tant qu'être humain, on est des êtres envahis par la peur. Vous savez que la peur ne faisait pas partie de la création de Dieu. La peur est arrivée après la chute. La première chose après la chute, c'est que Adam et Ève se cachent. Et lorsque Dieu les interroge, Adam dit « J'ai eu peur et je me suis caché. » La peur est rentrée dans le monde après la chute. Donc, nous sommes des êtres envahis par la peur. Souvenez-vous, sur le lac de Galilée, les disciples sont avec Jésus dans la barque. Ils sont dans la barque. Et à un moment donné, Jésus vient marcher sur les eaux. Alors, ils sont tous là, ils ont peur, ils sont tous à l'abri dans leur barque. Et à un moment donné, Pierre enjambe la barque, commence à marcher sur l'eau. Mais, voyant les vagues autour de lui, qu'est-ce qu'il est dit ? Voyant le vent contraire, il eut peur et se mit à couler. Vous voyez, la peur est vraiment destructrice. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur cette peur, mais on est tous pétris par la peur. La peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur de mal faire, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. la peur d'être ignoré, la peur de ne pas être compétent. Peut-être en vous parlant, ça vous vient, il y a des choses qui vous parlent directement. Je ne sais pas si vous avez peur aujourd'hui, peur de l'avenir, peur d'attraper le Covid, peur de se faire vacciner, peur de perdre un être cher, peur de perdre un travail, une situation. Dites-vous que Josué, à ce moment précis, connaît les mêmes choses que celles que vous vivez aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce texte peut venir à notre secours. Parce que la peur est une émotion qui est en relation avec le futur. Pour nous, êtres humains limités, l'avenir est incertain. C'est pourquoi l'Ecclésiaste nous demande de réfléchir avec sagesse sur qu'est-ce qui nous arrive. Et profitons de cette crise que nous vivons. Il y a des tas de bouquins qui sont sortis. Il y a le livre de John Piper sur le coronavirus. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Le livre de John Lennox aussi. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus et qui insistent sur le fait que cette crise est là pour nous amener à réfléchir. Et c'est peut-être le moment de réfléchir pour bien repartir. Et c'est ce que je vous souhaite en ce début d'année. Et Dieu, là, enfin pédagogue, va aider Josué à sortir de cette situation. Il va lui faire remonter la pente de la courbe. Parce que la courbe, on commence à la remonter quand on trouve du sens, quand on regarde vers l'avenir, quand on s'appuie, quand on crée un projet, quand on s'appuie sur Dieu et quand on pense à son avenir, quand on se met en action. C'est ça qui fait remonter de la courbe. Je ne suis pas psychologue, mais il y a des psychologues parmi nous. C'est comme ça qu'on fait en général pour aider les gens à remonter la pente. Donc, Dieu va lui faire remonter cette pente. Il va l'aider à retrouver de l'énergie, une espérance et des forces nouvelles. Alors, je n'ai pas le temps de m'attarder sur toutes ces émotions qui sont vécues, mais regardons plutôt comment Dieu s'y prend avec Josué pour le faire sortir de là. Alors, la première chose que Josué, alors ce n'est pas marqué dans le texte, mais c'est ce que je viens de décrire, c'est surmonter ses peurs. La plupart des peurs que nous connaissons sont des peurs irrationnelles. Il y a la peur salutaire, je me trouve face à un lion, je vais avoir peur, ça va être bien, ça va être salutaire pour moi parce que je vais partir très vite. Donc, c'est une peur qui m'aide. Mais beaucoup de peurs sont irrationnelles. Elles sont par rapport à l'avenir. Et l'avenir est incertain, mais c'est aussi accepter ses limites. Je ne suis pas Dieu, donc je ne connais pas l'avenir. Je ne peux pas le prévoir, je ne peux pas tout contrôler. Donc, à un moment donné, le lâcher prise, c'est quelque chose de très important. Surmonter ses peurs, je ne vais pas décrire ça, mais ça mériterait presque un texte complet. Deuxième chose que Dieu dit à Josué, lève-toi, lève-toi. Ça, c'est vraiment la première des étapes, c'est-à-dire prendre une décision. Ça implique que Josué et le peuple, je vous ai dit, ils étaient peut-être assis, tournés en rond, ils ne savaient pas quoi faire. Ils faisaient du surplace, un peu comme le fils prodigue. Vous savez, dans la parabole du fils prodigue, quand on regarde le texte de Luc, on ne va pas y aller, mais je mets cet extrait. Le fils prodigue, à un moment donné, qu'est-ce qui déclenche finalement son retour? C'est qu'il se dit en lui-même, je me lèverai. Il y a des textes qui disent, je vais me mettre en route, mais je me lèverai. Là, je crois que c'est la version NEG, la 79, qui dit, je me lèverai. D'accord? Ça veut dire que le fils prodigue, il est là, il est assis, il constate que chez son père, il y avait à manger, et là, lui, il n'a rien à manger. Et à un moment donné, il prend la décision de se lever, et c'est le démarrage qui compte. C'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Donc, je me lèverai et Dieu dit à Josué, lève-toi. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de se lever. Ce que j'aimerais faire, c'est vous encourager symboliquement. Je vais vous demander tous de vous lever dans un geste symbolique. On va se lever, on va se dégourdir un petit peu. Voilà, les épaules. On fait quelques tours d'épaule, là, voilà. On se détend, voilà. Symboliquement, vous vous êtes levé. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de se lever et de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre une décision pour avancer en 2021. Nous sommes le 3 janvier, c'est encore le moment. Voilà, vous pouvez vous rasseoir, merci. Deuxième chose que Dieu dit à Josué, traverse le Jourdain. Et j'ai rajouté le mot « ton Jourdain » parce que j'ai envie de le personnaliser. Peut-être que ce matin, chacun de nous, on a son Jourdain à traverser. D'accord ? Le mien, le Jourdain, c'est qu'on est en train, avec un ami chrétien, de créer une nouvelle activité pour les chefs d'entreprise qui s'appelle We Coopère. Et vraiment, les entreprises aujourd'hui ont plus que jamais besoin de travailler en collaboration. Donc, on crée spécialement un programme. Ça fait des mois qu'on le travaille, c'est beaucoup de travail. Mais Voilà, c'est mon Jourdain à moi, parce que c'est difficile à mettre en place, il faut le faire connaître, il y a tout un travail. Mais peut-être vous avez votre Jourdain. Quel est votre Jourdain aujourd'hui? Quelle est votre montagne qui vous empêche d'entrer dans le pays promis? Le Jourdain, c'est un peu le symbole d'un obstacle qui nous empêche d'entrer dans les promesses de Dieu pour en jouir pleinement. Le Jourdain, ça peut être aussi un péché non confessé, peut-être une relation brisée que j'ai à restaurer aujourd'hui, peut-être une paresse naturelle, peut-être trop de loisirs, peut-être la négligence de ma relation avec Dieu, la lecture de ma parole, je ne sais pas. Chacun peut mettre un nom sur son Jourdain. Quel est mon Jourdain? Et j'ai besoin de me tenir devant le Seigneur, lui demander, Seigneur, quel est le Jourdain que j'ai à traverser? Montre-moi. Montre-moi le Jourdain que je ne veux pas voir, dans lequel je ne veux pas aller. Peut-être ce Jourdain est là depuis longtemps et vous hésitez, vous tournez en rond comme Josué. Ben Dieu, ce matin, vous dit, lève-toi. Et si c'était ce matin une occasion de vous lever, inspiré par ce texte de Josué. Troisième chose que Dieu dit à Josué, le pays est déjà donné. Le pays est à nous. C'est le symbole de la victoire que nous avons en Christ. Alors, je ne reviendrai pas sur... Il y a plein de textes qui parlent de la victoire en Christ. Alors, c'est sûr que quand on lit ces textes, 2 Corinthiens 2, 14, « Grâce sera rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Vous vous dites, « Ok, mais moi, par rapport à ma situation, en quoi ça me parle ?» Eh bien, c'est aussi une question de vision et de projection. C'est-à-dire que je m'aperçois dans ma vie que quand je néglige la lecture de la parole, c'est-à-dire je la lis moins souvent ou je la lis pas assez longtemps ou superficiellement, eh bien, les choses du monde, les informations du monde tournent en boucle, le journal, la radio, etc. Et j'échange avec des gens, et puis la sinistrose commence à tourner et le doute commence à me gagner. Inversement, lorsque je reviens à la parole de Dieu, quand je regarde ce que Dieu fait dans la Bible, quand je m'approprie ces textes, quand je lis ces textes, quand je regarde ce qui se passe avec les différents personnages bibliques, eh bien, je raisonne différemment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme un chien noir et un chien blanc chez moi. Vous connaissez cette métaphore, hein ? Celui que je nourris, c'est celui qui gagne. D'accord ? Donc, si je le nourris avec les nouvelles du monde, alors je ne les nourris pas forcément activement, mais si je ne nourris pas le chien blanc avec la parole de Dieu, avec les perspectives de Dieu, avec la vision de Dieu, avec ce que Dieu a fait, avec les reconnaissances dont Aurélien nous a parlé, si je ne reviens pas à ces choses-là, eh bien forcément, c'est l'autre qui va prendre le dessus, indirectement. Peut-être pas directement, mais indirectement. Donc, ce symbole de la victoire, le pays est déjà donné. Dieu a gagné à la croix, il nous fait triompher en Christ. Éphésiens nous dit qu'on est assis dans les lieux célestes, on n'y est pas encore, mais par la foi, je m'imagine dans les lieux célestes, je m'imagine comment va être cette vie que je ne connais pas du tout. Ça ne veut pas dire que tout va se faire tout seul, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Il y en aura des combats, et Dieu le sait. Dieu le sait parce qu'il prépare Josué. Hein, Josué, il ne rentre pas dans un pays facile, etc. Mais Dieu lui dit, le pays est déjà donné, c'est la promesse donnée à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et Josué dit, voilà, le pays t'est donné. Donc, ça ne veut pas dire que je vais tout réussir, ça veut dire que j'aurai peut-être des échecs, ça ne veut pas dire que je dois me jeter à corps perdu dans n'importe quelle activité, ça serait tenter Dieu. Non, je dois discerner la volonté de Dieu, m'engager dans les justes combats, d'accord ? Je vous renvoie au message de septembre dernier sur la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Et Dieu nous fait toujours triompher en Christ, le pays est déjà donné, c'est une promesse de la Bible. Quatrième promesse que Dieu fait à Josué, nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire qu'il y aura des combats, mais la victoire est assurée. C'est-à-dire que quelle que soit la taille des ennemis, il y a des géants, il y a des villes fortifiées, hein, nul ne tiendra devant toi. Pour celui qui marche chaque jour avec Dieu, Dieu fait concourir toutes les choses à son bien, y compris les choses qui sont négatives. Je lisais il n'y a pas longtemps une interview de Steve Jobs qui parlait du jour où il s'est fait virer d'Apple. Vous savez que Steve Jobs a fondé Apple, il a été viré à un moment donné. Et en fait, il revient en arrière et il dit, mais c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Il n'est pas chrétien, hein, mais c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver parce qu'il a fondé Pixar après, Vous savez, c'est le studio d'animation de Disney qui l'a rendu très cher. Il dit qu'il a rencontré sa femme. Enfin, il lui est arrivé plein de choses extraordinaires. Et après, il est revenu chez Apple. Vous voyez ? Donc, en fait, Dieu est celui qui aplanit les montagnes pour nous. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Rien ne peut nous arriver qui n'ait d'abord traversé la volonté de Dieu. On le voit dans le livre de Job. Satan, lorsqu'il vient nous tenter, dépend entièrement de la permissivité, de la décision de Dieu. Vous connaissez ce chant, « Par la foi, nous marcherons », il est dit « Quand Satan veut te troubler, t'enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. » Voilà, « Nul ne tiendra devant toi », c'est ce que Dieu dit à Josué. Cinquième chose qu'il lui dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai point, parce que Dieu est fidèle » est avec nous chaque jour. Ce verset est repris dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, où il est rajouté que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ ne change pas, Dieu est fidèle. On peut être infidèle, on peut être éloigné de Dieu, peut-être je t'ai éloigné de Dieu, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, mais Dieu est fidèle et il ne change pas, il n'enlèvera pas sa décision et il sera avec nous chaque jour. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais Dieu sera avec nous chaque jour. Et puis, le sixième point, eh bien, c'est l'ordre de se fortifier. Et là, il est parlé de courage. Parce qu'on peut argumenter, on peut épiloguer là-dessus. C'est quand même dur ce que Josué va vivre. Il va falloir qu'il emmène tout un peuple, il va falloir qu'il traverse le Jourdain. Il fera acte de foi, il y aura des combats, il y aura des batailles. Josué ne sait pas ce qui va lui arriver, et tant mieux. Parfois, il vaut mieux pas trop savoir ce qui va se passer. Et 3 fois, il est répété, « Fortifie-toi et prends courage. » Vous savez, quand les choses se répètent dans la Bible, c'est qu'il y a une intention de Dieu. Par exemple, on a vu que Moïse est mort, c'est répété 2 fois. À un moment donné, Dieu a un message à faire passer à Josué. Là, 3 fois, plus même une fois au verset 18, 4 fois, « Fortifie-toi et prends courage. » Et le courage, c'est une force de caractère qui nous permet d'affronter le danger. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. On pense souvent que les gens qui sont courageux, c'est les gens qui n'ont pas peur. C'est faux. Les acteurs, les grands acteurs, par exemple, disent toujours qu'ils rentrent sur scène avec un trac énorme, ils ont peur, mais ils surmontent ce trac par le courage et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la mise en action malgré la peur, en surmontant ma peur. Et comment est-ce qu'on peut surmonter sa peur ? En sachant qu'on a un filet qui s'appelle Jésus-Christ, qui veille sur nous, qui envoie ses anges pour nous protéger. C'est extraordinaire. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait le film « La vie est belle ». C'est un vieux film de Frank Capra de 1947, justement où il y a une espèce d'ange qui intervient sur quelqu'un qui était complètement désespéré. Et on voit que, bon, c'est un film païen, mais c'est un petit clin d'œil de Dieu, que Dieu, même au fond de notre désespoir, quand on est en bas de notre courbe, eh bien on peut regarder et Dieu veille sur nous. Jésus-Christ prie, il intercède pour nous chaque jour, chaque jour, à chaque heure, même pendant qu'on dort. Voilà. Le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et y aller. Se lever. D'accord, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous connaissez ce brave homme, premier ministre anglais, qui a fameux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le courage, c'est une décision. D'accord ? Quand on a peur, on reste prostré, on est paralysé. Le courage, c'est prendre une décision. Je me lève. Peut-être j'ai une décision à prendre ce matin, de me lever, de faire quelque chose que j'attends de faire depuis des mois et des mois. C'est peut-être le moment. Dieu me parle ce matin pour ça. D'accord ? Donc, dans l'Ancien Testament, le courage, le mot qui est utilisé dans la Bible, dans le texte hébreu, c'est surtout, ça s'applique au courage militaire, parce qu'il y a beaucoup de situations militaires dans l'Ancien Testament, alors que dans le Nouveau Testament, eh bien, le courage, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Pierre a fait lorsqu'il a enjambé la barque, il est sorti, il a marché sur l'eau, parce qu'il avait la foi en Jésus-Christ. Il a eu le courage. Et après, la peur a pris le pas et il a commencé à couler. D'accord ? Donc, le courage, c'est peut-être ce qu'il me faut ce matin. C'est peut-être ce qu'il te faut, toi, mon frère, ma sœur, ce matin, pour te lever. Et enfin, le 7e point, que Dieu dit à Josué, et c'est peut-être le plus important, c'est le dernier, vous savez, 7, c'est le chiffre de la perfection divine, d'accord ? Donc ce septième point qui est dans ce texte, hein, c'est la méditation de la parole de Dieu, qui est une puissance de vie. Alors c'est quoi méditer la parole de Dieu ? C'est pas juste lire un texte, hein. Le mot méditer dans le texte original, c'est vraiment la rumination de la parole. Parce qu'il y a plusieurs façons de lire la parole de Dieu. Il y a peut-être la mauvaise façon, c'est un peu le staccanoviste. Il se dit, je vais lire 3 chapitres, 4 chapitres, 5 chapitres. Alors, il le lit, il enfile les chapitres. Il veut absolument cocher les cases pour être à jour au quotidien. Et donc, il abat du texte. Et puis après, il retourne à ses soucis. La journée prend le pas, etc. C'est un peu l'homme de Jacques qui se regarde dans le miroir. Il voit son visage, il part, il oublie aussitôt qui il est. Donc, la mauvaise façon, c'est peut-être lire la parole de Dieu superficiellement. Alors peut-être faut lire moins la parole de Dieu, mais la bonne façon, c'est la ruminer, un peu comme une vache. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de la rumination. Une vache, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est dans le champ, elle va ramasser, elle a un gros estomac là, qui fait plus de 500 litres, elle va passer 2 heures à ramasser le plus possible d'herbe. Elle va gonfler sa panse, c'est pour ça qu'on dit « j'en ai plein la panse ». Donc, elle va ramasser de l'herbe sans la mâcher. Elle va l'avaler. Puis après, elle se met à l'ombre. Vous voyez, vous avez une vache ici. Et puis, elle va ruminer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà observé une vache qui rumine. Vous voyez, vous la regardez, c'est des cycles à peu près d'une minute cinq, une minute dix secondes. Vous avez de temps en temps, hop, vous avez un petit bol qui remonte. Et puis, elle mâchouille pendant à peu près une minute. Ensuite, elle avale ce qu'elle a mâchouillé. Il se passe à peu près 15 secondes et vous avez, hop, un bol qui revient. Vous regardez sa gouttière jugulaire ici. Et donc, vous voyez le bol, vous regarderez, hein, c'est véridique. Vous avez donc vous sentez une onde qui remonte, et c'est le bol qui remonte et le bol, c'est un petit morceau de... Ça ne fait rien d'autre. Non, je ne suis... Vous avez un petit bol qui remonte. Tout ça pour dire que la rumination se fait tranquillement. Vous voyez, elle est couchée tranquillement, là. Elle est loin de toute agitation, elle est au calme. Et elle va, avec ses dents, elle va mélanger l'herbe avec la salive, elle va l'écraser complètement et elle va faire ce qu'on appelle un bol alimentaire. Il y a un système d'estomac qui est extrêmement bien fait. C'est pour ça que la création-évolution, quand vous regardez comment ça fonctionne chez une vache, je me dis, c'est pas en mettant 3 molécules d'azote, ammoniaque, carbone qu'on peut arriver à un truc comme ça. Mais bref, donc la rumination, c'est vraiment quelque chose qui s'applique à la parole de Dieu. C'est-à-dire que je lis la parole, je me laisse interpeller, tiens, je pose des questions au texte, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le point important que je ressors, quelle est la ration de ce que je lis avec ma vie aujourd'hui, etc. C'est ça, lire la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit à Josué, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alors, on sait bien que Josué ne peut pas méditer jour et nuit, parce qu'il y aura des combats militaires, etc. Mais ça veut dire médite-le le plus possible et passe du temps dans la parole de Dieu. Et je crois que Josué était l'assistant de Moïse pendant 40 ans. Il a appris ce que c'était que la patience, la méditation. Il a vu Moïse. Et je pense que c'est quelqu'un d'armé. Il a juste besoin de se souvenir qu'il doit méditer la parole de Dieu. Peut-être c'est ce que Dieu vous dit ce matin. Peut-être il y a une résolution à prendre aujourd'hui sur la méditation de la parole de Dieu. Souvenez-vous de la vache. D'accord ? Voilà, comment est-ce qu'on peut conclure ce qu'on a dit ? Ben, Josué était immobile. Peut-être il était prostré, il était apeuré. Et à l'issue de ce chapitre d'encouragement, il va retrouver l'énergie qu'il lui faut pour se mettre en action. Et le premier point, je vous l'ai dit, de sortir de la courbe de deuil, sortir d'un état léthargique, c'est de réinventer un nouveau projet, de se projeter, de mettre en place des actions. D'accord ? Alors Josué, il n'a pas de certitude sur l'avenir, il ne sait pas comment ça va se passer, mais il a renouvelé son espérance en Dieu, pourvu qu'il puisse méditer ce livre de la loi. Et donc au chapitre 2, on voit tout de suite, il met en place quelque chose. Il envoie 2 espions, pas comme la première fois. Il envoie 2 espions qui balisent le terrain. Ils vont rencontrer Rahab, etc. Vous connaissez l'histoire. Et au début du chapitre 3, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on apprend qu'il se lève de bon matin. D'accord ? Et ça me rappelle aussi Abraham. Hein, quand Dieu lui dit « va offrir ton fils », probablement ça a dû tempête sous le crâne pendant quelques temps. Et Abraham a pris la résolution, et la Bible nous dit, chapitre 22, Abraham se leva de bon matin, il sella son âne, il chargea le bois, etc., blablabla, etc. Donc, se lever de bon matin, se mettre en route, faire un projet, faire un plan, c'est ce qui permet de sortir d'un état léthargique. Et Josué a retenu la leçon. Et c'est pour ça que Josué sera victorieux dans ce chapitre, dans ce livre même tout entier. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir très rapidement? Je fais un petit résumé. Alors, premièrement, le passé, il doit être considéré. Oui, il faut tenir compte du passé, non pas pour des regrets, mais pour apprendre suffisamment de choses afin de bien préparer l'avenir. Donc, on apprend du passé pour préparer l'avenir. C'est tout. L'avenir, il est incertain. Mais Dieu le connaît totalement parce que Dieu est hors du temps, il connaît notre avenir. C'est ça la définition de la foi. Troisièmement, nous avons tous peur d'un tas de choses. Mais comme pour Josué, Dieu nous exhorte ce matin à prendre courage. Je vous rappelle que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la mise en action en surmontant nos peurs. Quatrième point, c'est qu'on ne va pas avoir que des réussites cette année. On aura des échecs. Mais l'échec va servir à préparer. L'échec va être comme un tremplin pour préparer l'avenir. Hein, souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur Steve Jobs. Et enfin, le cinquième point, c'est que Dieu est fidèle. Dieu nous promet d'être là pour nous aider à surmonter nos échecs, pour nous amener à bon port, soit qu'il revienne nous chercher, soit qu'il nous reprenne directement, où on ira le retrouver tous ensemble.